Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Avant de commencer cette émission, nous tenons à rendre hommage à Louis Salom, pilote de 24 ans, qui a eu un très grave accident vendredi aux séances d'essais sur le circuit de Catalogna en Catalogne. Malheureusement, Louis Salom n'a pu être réanimé et il est décédé quelques heures après son entrée à l'hôpital. Au menu de cette émission, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Christophe Tillemon pour le sommaire du motomagazine du mois de juin. Christophe, bonjour.
Bonjour l'ami, bonjour à tous.
Encore un gros pavé hein, pour le motomag.
Ah ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. En préparant, là, je disais la chasse est ouverte, hein, la chasse aux motos anciennes. Et bah on va en parler avec Jean-Yves.
Hein. Alors c'est la mobilisation générale. Hein.
Oui, oui. Ah, y a eu des actions coup de poing là sur Paris, ouais. On en reparlera.
Parce que pour l'instant, il n'y a que Paris hein, qui est concerné, mais attention, non. Ça va venir non. Après. Hein. Par chez nous ici, ouais, 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 sur Lille.
Il
ouais,
n'y ouais. A pas que Paris, c'est prévu pour aussi par chez nous. Ouais. On aura l'occasion de développer.
Voilà, on fera une revue de presse de moto à l'essai également.
Voilà, on passera en revue les modèles qui sont présentés rapidement. Bon, c'est bientôt l'été, donc les vacances. Que je vous espère les meilleurs possibles hein, sur la route. Donc, une foultitude d'adresses hein, qui vous sont. Alors là, il y a un partenariat avec Moto 80. Quand, chaque fois que je vais au Salon de Bruxelles, je vais les voir là. Donc, Moto 80, c'est le magazine belge de la moto. C'est un peu le pendant de Moto Magazine en Belgique. Et donc là, ils sortent un cahier spécial, les étapes Motomag. Donc, j'expliquerai un petit peu l'objet de ça. Et puis, il y a un dossier sur la main-d'œuvre. Hein, donc oui. Ça c'est intéressant.
J'ai lu ça, oui, effectivement. Bon.
Et à cette occasion, on aura l'occasion justement de pouvoir vous donner une idée d'ordre de prix pour débrider votre bécane, si elle est débridable légalement.
Voilà, donc ça, c'est notre ami Jean-Yves Ballois hein, de la Fédération française des motards en colère qui est également avec nous dans les studios.
Ah oui.
Bonjour Jean-Yves, avant tout quand même.
Bonjour tout le monde. Voilà, ouais.
Donc toi tu vas nous parler de l'interdiction de circuler, c'est plutôt le côté FFMC. Hein.
C'est plutôt le côté FFMC et revendication parce que là, comme disait Christophe, la chasse est ouverte, le gouvernement veut notre peau, et on ne se laissera pas faire et on contre-attaquera et on a déjà contre-attaqué dans différents domaines.
Et ce fameux débridage des motos à plus de 100 chevaux là, qui coûte très cher, hein, j'ai entendu des motards qui ont fait le débridage et en fait c'est pas pour rien du tout.
Hein, finalement je conseillerais en tant que désobéissance civile de continuer à rouler dans l'illégalité parce que de toute façon des lois à la con ça peut pas être appliqué. Je prends la responsabilité de mes paroles.
Donc tu considères que de toute façon ces lois ça sert à rien de les respecter et qu'il faudra
Et puis en
tout
plus,
ce qu'on peut pour pouvoir,
les mettre à la trappe. Ouais. Mais je voudrais aussi préciser, là je ne sais pas si beaucoup sont au courant, mais il y a un projet de justice du 21e siècle, vous voyez les chevilles qui enflent, où là, je vous l'exposerai, c'est aberrant. Quoi. On est fliqué pire que George Orwell.
C'est incroyable ça, hein. En 2016 quand même.
Mais c'est... Déjà on est fliqué par les Américains, mais là on va être fliqué par les flics français.
Très bien. Notre Jean-Yves, il est très, très chaud aujourd'hui. Voilà, et puis en fin d'émission, nous allons retrouver Daniel Torel, le vice-président de la Fédération des Bikers de France, qui eux, ils manifestent, mais partout en France.
Hein. Le 4 juin.
Il nous donnera les rendez-vous donc, pour les mois à venir. Voilà, Christine avec nous, côté féminin de cette émission.
Oui, bonjour à vous.
Christine qui roule en moto maintenant, qui a eu son permis il y a quelques temps. Et
quelques temps.
Avec beaucoup de difficultés quand même. Hein.
C'est pas grave.
Venge-toi.
C'est pas vrai.
C'était pour mettre un peu d'ambiance dans cette émission.
Elle a une très belle moto qui est garée devant le studio.
Une très belle moto. Hein,
voilà. Qui fait un... Pom.
Mais qui fait un bruit. C'est... Mais alors, je vous donne... c'est une mélodie.
C'est un son.
C'est une mélodie.
Voilà.
On va d'ailleurs l'enregistrer comme générique pour l'émission.
Déjà, sur le générique, c'est un triomphe.
On fait confiance à Laurent.
C'est pour ça que
le
logo tique un coup, c'est un triomphe, c'est un moteur de triomphe. Voilà. J'ai une annonce tout de suite à faire, c'est que je dois annoncer que le motocross d'Isberg est annulé. Ah. Donc si vous partez, il ne faut pas prendre la moto pour aller donc à Isberg parce que le motocross est annulé. Voilà. À la technique, on retrouve qui ? Notre ami Laurent. Voilà. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous. wasting all my time. Well, I don't know how we got here. He's my word, man. Dream of forgotten, but I'm wasting all my
On va commencer avec le sommaire donc de cette du Moto Magazine du mois de juin, Christophe.
Numéro 328.
C'est l'édito alors. L'édito c'est mourir ou
plutôt crever.
Et toi, tu nous as dit on envoie un peu une promo, hein, émission. Là, toi, t'as mis la chasse est ouverte, mobilisation générale.
Oui. Alors, je vais y revenir, mais déjà effectivement l'édito de Jean-Pierre Théodore, le rédacteur en chef. Alors là, il est remonté. Hein. Il est remonté, sacrément remonté. Et alors, avant de commencer, il commence son édito par un hommage à Ciné, dessinateur, nous a quitté donc le mois dernier, à l'âge de 87 ans. Et Ciné, il était le dessinateur de Moto Magazine il y a 20 ans. Et donc, ça fait partie d'un de ses dessins hein, qu'il avait, parmi d'autres, qu'il avait réalisé. Et donc, mourir plutôt crever, bah, effectivement, c'est le contexte actuel. Donc, on en parle pratiquement à chaque émission, hein, chaque fois qu'on vient. Stigmatisation des campagnes de prévention. On ressasse dans les médias que nous sommes de dangereux énergumènes.
Pollueurs.
Le débridage des 100 chevaux qui est conditionné à la présence d'un ABS. Donc, encore une exception française, la manœuvre pour un contrôle technique injustifié ou l'enfumage en matière de pollution pour exclure les motos les plus anciennes des villes, on y reviendra tout à l'heure. Entre parenthèses, j'écoutais tout à l'heure sur une radio concurrente le directeur de la rédaction de Automoto qui ont fait donc des tests sur banc des moteurs des grandes marques européennes. Eh bien, c'est pas Volkswagen qui est leader, c'est Renault. Donc, en matière de moto, il n'y a pas de leçon à nous donner avec les voitures. Voilà. Et puis, il termine son édito en disant peut-être que il y a les nuits debout et il y aura peut-être les nuits de roue bientôt. Voilà. Parce que là, il va falloir se lever et agir.
Et agir, oui.
Alors, Je continue. Le courrier des lecteurs, vous savez que j'aime bien repérer un petit peu les rubriques des lecteurs qui écrivent. Alors là, bah, ça tombe bien. Il y a Pierre qui a écrit, il est de Calais, et puis il signale qu'à l'entrée de la station Total, alors on parle beaucoup des raffineries, mais on peut aussi parler des stations. Il y a une photo à l'appui d'ailleurs. Trois ralentisseurs qui ont été installés. Bah, quand vous prenez ça en moto, bah, vous mettez en appui la moto sur le premier et puis vous arrivez sur le second. Voilà, vous dégagez.
Donc,
ils sont à la porte du casque d'âne. Hein, vous savez que chaque mois, c'est casque d'or ou casque d'âne. Bon, il y a plus souvent des casques d'âne d'ailleurs que des casques d'or. Et donc, bah voilà, il y a une interpellation de la station Total de Calais pour remédier à ça. C'est bah, toujours pas fait à notre connaissance.
En motocross, ça s'appelle les whoops. Non, c'est les whoops sur la piste.
Ouais, bon,
sur,
bah,
sur la route.
On s'en passera sur la route.
Effectivement, je vois la photo.
Alors, pour tous les geeks, une application, l'application du mois. Alors, il se trouve que ce mois-ci, bah, on est toujours mieux placé de faire sa publicité. Hein, donc, l'appli Moto Magazine, dont vous pouvez disposer sur Google Play Store et qui vous permet donc de retrouver sur smartphone et tablette sous Android Moto Magazine, mais bien sûr tous les assortis de Moto Magazine, y compris l'émission. Parce que je le rappelle, nous sommes aujourd'hui en vitrine, si on peut parler comme ça, sur le site de Moto Magazine, avec donc la possibilité pour tous les internautes et les lecteurs de motomagazine.com d'accéder aux quatre dernières émissions. Voilà, dont la nôtre.
Mais on est en vitrine, mais habillé. Hein.
Oui,
on n'est pas nuls.
On n'est pas Amsterdam, quand même.
Ils sont nus dans le studio, mais bon.
La voix de la Christine, maintenant, elle est vexée parce que je lui ai dit que voilà, ils sont nus dans le studio.
Ouais.
Quatre hommes, une femme, voilà.
Bon, alors, ensuite, un long dossier sur la chasse est ouverte dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Paris chasse les motos, ça c'est le titre du dossier. Alors, on a pu voir, je ne sais pas si vous avez vu les quelques vidéos, là, un peu coup de poing, de Jean-Marc Bellotti et son équipe, là, devant l'hôtel Raphaël.
Qui finalement agissent très intelligemment parce qu'ils ciblent justement les leaders des attaques contre les motards. En les empêchant d'accéder à certains routes mondains ou autres trucs de ce genre. Il y a des repas à 150 boules.
Voilà, il faut rappeler que l'adjoint au maire de Paris, hein, Vert, Europe Écologie Les Verts, Christophe Najowski, a convié donc. Alors, je ne sais pas qui était convié d'ailleurs, mais enfin, ils alignaient 198 euros pour venir l'écouter, pour parler justement de cette politique. Anti-moto
liberticide. Liberticide. Les choses par leur nom.
Voilà. Et donc, il y a eu une explication franche. Alors, la réunion a dû se tenir ailleurs.
Oui, ils ont dû déménager parce que, justement, ils bloquaient les entrées. Et donc, ça a considérablement gêné, justement, les ennemis.
Oui. Alors, Jean-Yves, tu peux nous rappeler peut-être les conditions qui font que cette mesure, elle est complètement inadaptée,
inique,
et décalée.
Justement, il faut savoir qu'il y a une guéguerre qui a été menée, parce que c'est de la surenchère entre Royal et Hidalgo. L'une veut faire interdire les motos le plus rapidement, les véhicules polluants, pas seulement les motos, à Paris. Et l'autre, il y a la lourdeur de l'État. Et donc, l'une voudrait aussi classer les véhicules par degré de pollution en 6 catégories, donc 6 pastilles, qui permettrait de flasher par caméra n'importe qui, n'importe quel contrevenant. Et l'autre qui est encore beaucoup plus sévère et qui voudrait 4 pastilles. Voilà. Le problème, c'est que ces pastilles sont basées sur les normes euro des voitures. Alors qu'il y a un décalage, tous les motards savent qu'il y a un décalage entre les normes euro des voitures et des motos.
Voilà, on arrive aujourd'hui à l'euro 4 sur les motos, alors qu'on est déjà à l'euro 6 depuis l'année dernière sur les voitures.
Et donc ils veulent appliquer les règles euro des bagnoles aux motos. Donc c'est pas normal du tout d'ailleurs.
Oui, alors il faut dire que le parc dont on parle de motos anciennes, donc on rappelle que c'est les motos d'avant 2000, ça représente sur Paris et banlieue 6% du parc de roues.
Donc, c'est
quand même pas grand-chose, soit 15 000 véhicules sur 230 000, et c'est une goutte d'eau par rapport à la circulation automobile.
Automobile, et puis par rapport à la pollution industrielle et la pollution qui nous vient des pays étrangers. Ça, c'est de l'enfumage. C'est facile de présenter le motard comme un salopard qui asphyxie les bébés au berceau avec ses émissions polluantes. Parce que bon, il faut toujours un bouc émissaire, hein, c'est divisé pour régner, donc c'est toujours la technique habituelle. Bon,
moralité, ta Guzzi en semaine, tu la laisses au garage, ma BM pareil, la Miche, toi, t'as Harley, tu la laisses au garage aussi.
Ah non, mais moi je vais rouler, moi je vais.
Alors, qu'est-ce qui t'en coûte ?
Attends, ça va marcher avec des pastilles.
Des pastilles, oui.
J'ai une très bonne photocopieuse au boulot et je vais. Je pense que je vais pouvoir faire des photocopies de fois.
C'est une idée justement de la FFMC, c'est de, dès que les pastilles seront sorties, c'est d'en imprimer pour notre compte, et évidemment de se mettre en classe 6, donc quasiment véhicule électrique, pour permettre de rouler sans aucun problème.
J'avoue que ça fait pas très citoyen de dire ça, mais...
On
en arrive où dans ces... Attends, il y a le contrôle technique, il y a les euros, alors les normes euros. Qui prouvent que tu es bien dans la situation, ton véhicule ne pollue pas... à un moment donné, Et maintenant on dit non, en fait c'est une loi rétroactive en fait.
En gros, c'est ça. Parce que ça pénalise les degrés de pollution des véhicules qui sont pourtant en faible nombre et qui pourtant permettent de supprimer beaucoup de pollution parce que les temps de trajet sont quasiment 2 à 3 fois plus courts. Donc ça pollue à peu près à l'équivalent des normes automobiles. Comme c'est 3 fois plus court, ça pollue quand même 3 fois moins mathématiquement.
Moi, je rappelle quand même qu'il y a 20 ans, vous vous souvenez des jupettes, les voitures, il y avait la prime, je crois que c'était 5000 francs, qui permettait justement de changer. Pourquoi sur ce parc moto, il n'inciterait pas d'une certaine façon par une prime, surtout quand on voit ce que ça représente pour les gens éventuellement changer de moto.
Justement, là, il faut souligner aussi que quand on téléphone à la mairie de Paris pour savoir s'il y a des primes pour le changement de sa moto, oui, en vous donnant la prime pour l'achat d'un vélo électrique. Alors le banlieusard qui doit faire Pantin, Conflans-Sainte-Honorine, en vélo électrique, merci, il ne va pas arriver vivant.
Alors, à vérifier, ça marche peut-être pour un scooter électrique. À vérifier. Hein. Ouais. Alors, je vous donne, pour terminer, le tarif. Si vous êtes pris, effectivement, pour pratique illégale de la moto à Paris, c'est 35 à partir du 1er juillet. Et ça sera 68 à partir du 1er juillet 2017. Donc, voilà. Et probablement, possibilité de mise en fourrière.
On peut rappeler l'année, au niveau des années
Là, il est prévu dès le 1er juillet, donc mise en pratique.
Et c'est les véhicules de quelle année ?
Alors, les véhicules d'avant 2000 pour les motos et d'avant 1997 pour les voitures. Et on connaît, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais un échéancier avec les dates d'année des motos qui va arriver. D'accord. Donc, ce qui fait que même des motos récentes aujourd'hui, dans... quelques années, 3 ans.
En 2020,
seront out.
Là, c'est en 2020, les motos de plus de 5 ans sont interdites.
Voilà. Bon. Merci Jean-Lamy.
Ah oui, il y a Christine qui reste complètement...
Vous venez de me dire que j'avais une belle moto.
Bouche bée, hein.
Voilà, hein. De 2004.
Christine, c'est fini, tu ne pourras plus aller à Paris.
Plus à Paris. De toute façon,
seulement à Paris, c'est là le problème.
Ah mais le problème, c'est que, attention, pas que Paris bientôt.
Toutes les grandes villes,
donc justement, dans notre région, il y aura Lille, il y aura Dunkerque et il y aura Arras. Qui suivent l'exemple de cette Hidalgo de Méfès.
Voilà. On termine bien sur on termine le sujet sur la conclusion de Jean-Yves.
Oui, on parlait des euros. Euro 1 avant 2007.
Très bien. Voilà. Un morceau de musique, Christophe.
le magazine de la moto et des motards. C'est sur Campus et de 11h à 12h30 tous les dimanches. Aujourd'hui, on passe au crible le Motomag du mois de juin.
Voilà, Christophe. Alors, effectivement, une revue de presse assez rapide donc de toutes les motos qui sont à l'essai. Alors, des roadsters, donc la Yamaha MT-10, hein, donc maintenant on connaît bien la série des MT. Donc là, on tape dans un roadster sportif. Oui. Haut niveau.
Moi, j'appelle ça une sportive. J'appelle plus ça un roadster. Hein.
Voilà. Alors,
j'imagine mal avec un top case de sacoche et une tente de camping et de.
Ah non, mais ça, c'est genre, mais ça terminé ça sur les
motos. Ouais, bah, une roadster non, pour que, moi, c'est ça.
Non,
mais
non, c'est une routière que tu veux.
Eh bien, routière. Vous jugerez sur
ah pièce. Ah non, mais là, il y a un truc qui va pas là, parce que Jean-Yves alors, qui a des années et des kilomètres et des millions de kilomètres derrière lui. Hein, qui part
roadster,
forcément
d'ailleurs.
Avec sa tente et son duvet et son petit réchaud et puis sa petite gamelle hein, à réchauffer pour faire le café le matin. C'est fini ça hein, pour ouais, maintenant
alors,
en 2016.
Alors c'était plutôt le style Tracer 700, hein, donc la ouais. petite baroudeuse là, pour partir et tailler la route. Hein, donc tu charges une paire de sacoches et puis ça y est, c'est parti. Donc vous retrouverez également cette moto. Alors, la super motard Ducat Hyper Motard 939, hein, donc un jouet pour passionnés. Bon, oui, bah c'est Ducati. Déjà, il faut le checker et le compte qui va avec.
Non, mais là, c'est clair que tu ne mets même pas une sacoche de réservoir.
Voilà.
Non, mais ce qui est formidable, là, je reviens d'un stage conduite montagne, il y avait 4 Ducati.
Ah,
4 différentes, il y avait 2 Monstro, une Scrambler et autres. Aucune n'avait les pots d'échappement pareils. Alors tu te dis, mais c'est pas possible. À chaque fois, changer de modèle, tu changes complètement les échappements, mais ça doit coûter un pognon fou. Et effectivement, quand on apprend le prix des révisions ou autre, on se dit, c'est inabordable.
Alors c'est pourquoi c'est les possesseurs qui...
Non, c'est d'origine. Les Ducatistes sont très rares à améliorer leur moto. Ils se contentent du concessionnaire.
Alors, dans ce Motomag, là, il y a le Triumph Tiger Sport. Là. Je ne sais pas si tu en as parlé, Christophe. Là.
Oui, alors...
Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un trail ou...
Franchement,
il y a un de sportif là-dedans.
On voit que finalement,
les
fabricants...
Le moteur est très sportif.
Le moteur, oui.
Non, mais la partie cycle
motos,
est trail.
Il se passe un peu à la moto ce qui se passe en voiture. On cherche à élargir la strate de
des catégories.
Et donc, effectivement, on veut toucher le plus grand nombre. Et donc, on sort des motos avec des moteurs qui sont très, très ludiques, très attractifs, mais on leur donne aussi des formes. Bon, ben voilà, ça peut donner ça. Donc, moi, je l'ai appelé un peu la moto plus, hein, plus de protection, plus d'assistance à la conduite, plus performante. Bon, voilà, polyvalence, plaisir. On retrouve tous ces critères dans la Triumph.
Alors, on va profiter que notre ami Daniel Torel vient de rentrer dans les studios. On va te parler de ces fameuses Harley là.
Alors,
c'est un 1200, c'est l'européenne, il paraît. La plus européenne des Harley Davidson. Daniel, c'est là. Alors, on lui montre hein, parce qu'il lit pas Motomag.
Mais oui, mais.
T'es nul.
Vous m'avez mis en colère.
La EBF, elle est nulle. Hein.
Non, mais vous m'avez mis en colère ce matin.
On t'a mis en colère.
Mais oui, parce que j'écoutais, donc, puisque je rentre de Paris parce qu'on manifestait hier, mais on va tous crever. Donc, je suis allé chercher une bombe. Et moi, je trouve que c'est scandaleux de tenir des propos pareils pour la jante motarde. Voilà, donc j'en
compte. Bon, alors là, je t'ai trouvé une Harley qui penche, qui freine, qui a des bonnes suspensions, une sportive à l'ancienne, hein, qui a une partie cycle avec excentricité, et donc voilà, un roadster sous couvert de Harley. Alors, qu'est-ce que t'en dis, cher ami, là?
Tout à l'heure, si t'adresses à moi, moi, je trouve que c'est une Harley.
Couleur en Harley.
Il n'y a pas trop de changement. C'est toujours le moteur V-twin, là. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une continuité hein, dans le style Harley.
Donc. On va dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble de plus en plus à ce que fait Yamaha. C'est assez étonnant comme.
J'aurais pu jeter l'inverse.
Non, non, mais honnêtement, mais là, honnêtement, mais bon, ceci étant, c'est une manière de faire du neuf avec du vieux, faut être honnête.
Voilà. Non, mais attends, Davidson, il a le chic pour faire ça. Hein, faire, à chaque fois, te sortir avec. Parce que je sais pas ce que quand ça va durer, là, mais.
Non, mais c'est intéressant. Pourquoi on met une fourche inversée, style Hollins, on met des amorteaux qui amortissent un peu mieux. Au fond, ça va dans le sens du client, quelque part. Et comme ce sont des gens qui ont un marketing extrêmement puissant, puisque c'est ce qu'ils vendent, tout compte fait une espèce de rêve pour des gens qui roulent peu. Bon, là, ils se sont dit peut-être que des gens rouleront un peu mieux avec ce genre d'équipement, peut-être.
Alors, ils sont même mis à l'électrique, hein, chez Harley. Bon,
il y a longtemps.
Encore là. Alors là, Christophe, on va pas sur ce terrain-là, parce que ça va déraper.
Mais en plus, c'est vrai.
Je sais que c'est vrai, mais bon, j'en ai pas vu beaucoup sur la route. Hein.
Non, bah non. Chez Harley, non. Mais la zéro qui est présentée dans Motomag, oui.
Oui, mais on refera une émission l'année prochaine. Peut-être l'électrique. Et l'évolution, ça va quand même évoluer. Ça.
C'est intéressant parce que même c'était les premiers quand même à vendre des gilets orange et jaune, faut pas l'oublier. Donc à sortir avec la moto électrique, ça peut être génial.
Voilà.
Le total look.
Alors moi, je voudrais revenir là-dessus, tiens.
Oui.
C'était les premiers. Et donc, à pas croire qu'effectivement, on arriverait avec la FED à pouvoir abolir cette loi de porter ce fameux gilet jaune ou orange. Hein, on les a vus arriver en concession et effectivement, chez Harley, ils étaient les premiers à mettre
tout à fait.
À faire du business, parce que forcément, ça fait vendre aussi, cette histoire.
Donc, à être contre l'esprit motard en général. Quoi.
Voilà, exactement. Donc, il ferait mieux d'être un peu plus solidaire, quand même, de la vie des motards.
Je vous rappelle qu'on présente les modèles qui sont présentés dans Motomagazine.
On verra. T'as raison de replanter le décor.
Et j'ai quand même, dans le temps imparti, à vous parler du comparatif donc, des roadsters. Mid-size, hein, donc c'est roadster autour de 6000 euros. La CB500 Marc,
Honda,
il y a personne qui suit.
Honda, c'est bien 500 ici.
La SV650,
Suzuki.
Je vois qu'il y en a qui suivent.
Christophe, on peut peut-être le faire en deux fois, peut-être. Regarde, on passe un peu un morceau de musique.
Eh ben, si tu veux.
Pour se décontracter les oreilles, quoi.
Ouais. Musicon.
Allez, musicon, oui.
I smell the bacon and the hot pecans. I do hope that I don't embarrass y'all. But I get the feeling that this place is under your cosmopolitan suspicion. You very nearly made a fatal blunder to all the grits with butter missing. Smothered in a lip band. They gon' be butter people where you from. That's just the way this kind of food gon' come. They gon' be waffles 'cause you in the house. They gon' be butter 'cause you in the south. We'll be right back.
magazine La Moto sur Campus, 11h-12h30 tous les dimanches. Aujourd'hui, on passe à la Moulinette le Motomag du mois de juin avec Christophe Tillman.
Voilà, alors nous étions en train de lister les motos qui sont présentées dans le magazine de juin ce mois-ci. Alors j'en étais resté au comparatif Roadster. Donc Daniel faisait remarquer les motos écoles. Et effectivement, c'est tout à fait roulée jeunesse, la moto par excellence qu'on trouve chez les motos écoles. Hein, donc je l'ai listé, la CB500, la Honda, la Kawasaki ER5, la Suzuki SV650 et la nouvelle Yamaha MT-07, donc un long dossier de 15 pages que vous retrouvez dans le centre du numéro de juin. Alors, une rubrique qui existe déjà depuis quelques mois, la rubrique Nostalgie. Ce mois-ci, c'est la Monster, la Ducati 900 qui est passée au crible. Il nous est rappelé qu'en 1994, elle avait été élue moto de l'année et elle avait été donc comparée à sa petite sœur, la 600 Monstro. L'une radicale et chère, donc celle qu'on présente, et l'autre beaucoup plus facile et abordable. Donc vous retrouverez en deux pages l'historique de cette moto. T'as eu l'occasion de l'essayer sur 2 km. Tes impressions, la niche?
Ben, écoute, c'est une moto.
Il a mal au dos.
C'est, oui, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Écoute,
bon, c'est marquant.
Mais Jean-Yves avait quelque chose à dire
sur les Ducati. Non, je préfère pas. C'est une très bonne moto, mais bon, c'est pas pour une tranche de population standard.
Voilà. Et pour terminer, donc la rubrique occasion, un comparatif, une fois n'est pas coutume, entre deux motos, dont une, on avait eu l'occasion d'avoir Patrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était venu nous parler de sa FJR. Et donc la FJR, là, qui est confrontée à la Pan-Européenne, donc en rubrique occasion. Alors justement, c'est l'occasion, de faire le larron, de parler du débridage de ces motos.
Mais attends, la FJR, c'est la moto des flics, ça, non?
Pardon, la FJR, oui, tout à fait.
Non, ça peut être une bonne moto.
Alors, c'était parce que...
Faut demander aux flics leur avis.
Je ne sais pas si c'est toujours. Est-ce que BM n'a pas récupéré le marché?
Si, ah, justement.
Tout à fait.
Ah, ouais. Voilà. Donc, bah oui... Il y a eu un mauvais coup une fois, oui, mais ça effectivement, il y a une dizaine d'années, je crois, peut-être un peu moins, Yamaha avait raflé la mise sur ce marché-là. Alors, ces motos, donc, en parlant de débridage...
Débridage, allons-y, justement. Si vous êtes possesseur d'une Yamaha, c'est bien fait pour vos pieds. C'est pas que je dénigre Yamaha, mais...
Non, si il roule en Triomphe, hein, ou en Guzzi.
Si votre moto est équipée d'un ABS, théoriquement, vous avez, dans les textes, la possibilité de la faire débrider. Et justement, une petite enquête rapide permet de voir quel est le coût de ce débridage. Alors, chez Yamaha, en administratif, il faut compter 50 euros, en changement de carte grise, une cinquantaine d'euros aussi. Ils doivent changer le boîtier écu, donc là, ça fait beaucoup plus cher, c'est de 300 à 600 euros.
Ah oui, quand même.
Il y a de 1 à 4 heures de manœuvre là-dessus. Donc, moralité, pour débrider votre Yamaha, il faut compter de 500 à 1000 euros.
Bon.
Chez Honda, c'est un peu moins cher, c'est 650 à 950 euros. Chez KTM, plus on descend dans la production et moins ça coûte cher. Chez KTM, c'est de 600 à 200 euros seulement. Et chez Aprilia... C'est de 150 euros plus une demi-heure de reprogrammation de l'écu. Donc ça revient à 200-250 euros. Donc vous savez quelle marque acheter la prochaine fois que vous changez de moto.
Oui, alors justement, ils ont interviewé dans Moto Magazine en page 19 donc Jean-Luc Mars, qui est le directeur général de Triomphe France. Et à la question « Avez-vous fixé un prix forfaitaire pour l'intervention sur ces motos ?» Effectivement, il répond donc en deux temps. Il y a le temps de main-d'œuvre. Donc ça, effectivement, on en parlera après. Ça fait l'objet d'un autre dossier hein, qui est inclus donc entre 30 minutes et 1 heure. Et auquel se rajoutent 100 euros de frais administratifs. Hein, donc préparation, réception du dossier, fourniture du document, impression et courrier.
Mais il faut encore voir que le passage par le concessionnaire est obligatoire. Et c'est ça qui est dégueulasse, et je présume que mes collègues du FBF me rejoindront, c'est que vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Or, il n'y a rien de plus simple sur les Triomphes ou autres de reprogrammer son écu.
Oui, il est mort.
Alors, Yamaha, je ne connais pas le programme.
J'étais propriétaire de 3 FJA, je peux vous assurer que c'est très simple.
Ah bon?
Bon, alors, il y a des modèles, effectivement, et des marques où il y a un bridage mécanique, oui, enfin, remarquable, ouais. Et après, il y a aussi le système.
D'EQ, parce que de toute façon, si elle a l'ABS.
Il faut avoir une valise ou l'appareil pour pouvoir aller modifier les paramètres.
Ou le programme informatique. Et ouais, ça, on le trouve sur Internet. Et le câble
Pour toutes les marques.
Non, le câble DB, on le trouve à 20 euros. Et le programme, je vous dis, qui marche pour Triumph, pour KTM, pour Aprilia. Et pour encore une autre petite marque comme ça. Mais après, moi, je vous parle de ce que je connais vraiment et que je pratique.
Si vous êtes embêté, vous allez voir Jean-Yves, il va vous régler la mise.
Voilà, Jean-Yves. Alors, j'ai son numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, vous m'appelez.
Il est là tous les premiers dimanches, pas.
Tous les premiers dimanches, vous venez avec votre machine et puis vous allez, il va vous débrider ça pour rien.
Voilà.
À vous ramener quand même.
En plus, c'est un spécialiste Triumph.
Non, mais il faut souligner encore une fois que ces bandes de salopards de politique, ils nous obligent à dépenser. C'est du fric inutilement parce que pour des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes.
Mais je suppose qu'il faut un papier du concessionnaire.
Qui
approuve que la moto a été débridée, que dans les normes, fait par des professionnels.
Voilà, la réponse d'ailleurs du directeur de Triumph, c'est de dire la mission est confiée au concessionnaire de vérifier qu'une moto est conforme à la réception européenne.
Voilà. Et toutes les. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu schizophrène aussi chez les fabricants de motos. Pourquoi faire supporter un coût de remise en conformité d'une moto à un client lambda qui a acheté ça? Faut être complètement maso pour accepter. C'est un problème d'homologation et d'importateur que les importateurs règlent leurs différends avec les politiques et non pas sur le dos des clients. C'est un peu trop facile. Parce que faut quand même pas oublier que les importateurs ont été les premiers aussi à aller un petit peu dans le sens du mouvement, etc. Donc maintenant, mais qu'ils assument aussi, qu'ils aient un peu de courage, parce que, encore une fois, le coup de gueule, enfin on le poussera parce qu'on est tous en train de manifester, c'est quand même curieux. Dans toutes les manifestations motardes, on ne voit aucun importateur. Il n'y a aucun relais de communication. Rien du tout. Ils sont bons pour faire casquer les motards, mais surtout pas pour défendre leur truc. Alors qu'on se bat pour leur survie, il ne faut pas l'oublier. Donc, il est hors de question qu'un consommateur averti supporte des frais sur lesquels il n'a rien à y faire.
Et donc, pour l'instant, en l'état des choses, on vous appelle à la désobéissance civile.
Voilà.
Continuer à rouler illégalement, parce que de toute façon, on ne peut pas rouler autrement.
Voilà, l'intervention de Jean-Yves et de Daniel, je suis resté scotché. Là, vraiment. Et c'est vrai qu'on est en train de se faire avoir par les importateurs, hein, ça c'est sûr.
Bien sûr.
Aussi, avec le contrôle technique et tout ça,
ils sont derrière, parce qu'ils espèrent récupérer le marché.
Donc nous, on est coincé avec le gouvernement et on est coincé derrière par les importateurs de motos. Incroyable.
Mais en matière de vente, là, depuis le début de l'année, on sait à peu près, parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure, les concessionnaires ont eu du mal à écouler leurs machines qui étaient bloquées à cause de justement cette levée de la norme Euro 4, enfin du débridage des motos et des 100 chevaux, de la circulation des 100 chevaux. Mais maintenant, là, tout à l'heure, Daniel, tu nous disais que ça posait des problèmes des machines qui n'arrivaient pas.
Bah oui,
c'est pas seulement les machines qui sont chez eux qui ne pouvaient pas sortir, maintenant
c'est
ils peuvent.
Les livraisons, oui,
mais les livraisons n'arrivent plus.
Oui, en plus, donc, le temps aidant, ça aide pas, quoi.
Les chiffres des ventes vont être bons cette année.
Bon, moi, je vous propose de se dégourdir un petit peu les oreilles avec un bon petit morceau de musique. Et on se retrouve après.
Ça marche.
Musicon.
Time is past and gone. All right. brain. Sometimes I feel like there's darkness all around my brain. When I feel darkness all around my brain, my whole damn life ain't nothing but pain. Sometimes I feel like my time is past and gone. Sometimes I feel like my time is past and gone. Death comes to me, I look him straight in the eye. When death comes to me, I look him straight in the eye. When I look death straight in the eye, my soul will break free, my spirit will fly. Sometimes I feel like my time past and gone. Past and gone. Past and gone. Sometimes I feel like my time has passed and gone.
Bon, Christophe, on part page 24, et là, ce seront portraits
oui,
d'une concessionnaire.
Audrey Buet, effectivement, 32 ans, patronne de la concession Triomphe, donc Diagonale à Montesson, et on nous présente un peu son parcours. Alors, c'est intéressant, c'est pour... Allez, les jeunes qui savent pas trop quoi faire, quand le modèle du parcours de cette fille, il est quand même assez génial. Elle se présente donc en stage de détermination en troisième en 1998 pour aller faire un stage de moto dans un atelier. On lui dit, on prend pas les filles.
Oh. Paf, une baffe,
dur,
elle a filé.
Dur, hein, quand même.
Tu te rends compte, donc, Christine? Tu te rends compte? Non, mais attends.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire son stage dans le supermarché juste en face. Elle a de la suite dans les idées. Et puis, elle a toujours été soutenue par ses parents. Elle voulait faire de la mécanique moto. Elle a fait de la mécanique moto, alors qu'il n'y avait pas du tout de motard à la maison. Hein. C'était son truc. Et donc, elle a suivi son parcours, mais elle a fait surtout une rencontre, la rencontre de Fabien Delru, qui était propriétaire à l'époque de la concession Diagonale à Montesson, et qui lui a dit « Tu vas te salir les mains ». Et ça, c'était... elle l'acceptait, mais surtout, il a dit « Tu vas aller te former ». Et donc, elle a suivi le parcours, et elle a fait ses stages chez Diagonale. Elle est rentrée chez eux, elle a été embauchée. Et puis, elle raconte justement quand un motard vient avec un problème mécanique et qu'une femme lui dit « Je vous écoute
». Bon, il se demande si c'est pas trompé d'adresse.
Ça génère, voilà, parfois, une certaine déconvenue.
Oh, là, c'est un petit peu rétrograde. C'est des idées un peu...
C'est toi qui dis ça.
T'as pas pratiqué.
T'es pas une fille, d'abord.
Voilà, il pratique plus assez.
Mais là, vous me connaissez. C'est très mal.
Bon, alors.
C'est pas vrai du tout. C'est pour déconner que je dis ça. C'est tout, ça me met de l'ambiance.
C'est tout. Ah, c'est du deuxième degré.
Oui, le troisième, mais quatrième.
Ah bon, voilà.
Ah non, vraiment. Et donc, non. Alors, franchement, là, vous m'épatez. Hein.
Elle est passée du statut de petite derrière le comptoir donc, à mécano de confiance. Et puis, un beau jour, quand Fabien a voulu céder, il lui a proposé de reprendre l'affaire. Et donc, avec la bénédiction, évidemment, de Triomphe qu'il a fallu convaincre. Elle a inauguré donc le 14 avril dernier cette concession relookée, 250 mètres carrés de showroom, donc le nouveau Diagonale, avec un objectif de 160 ventes de machines par an. Donc 32 ans.
Enfin, si elle reçoit les motos.
Ah oui,
elle pourra toujours vendre du textile.
Après ce qu'on vient de dire, effectivement. Alors voilà un parcours qui doit vraiment inciter les jeunes à aller jusqu'au bout de leurs désirs et puis à s'en donner les moyens. Et puis donc un autre dossier, alors c'est, je l'ai mis dans les portraits parce que c'est quand même intéressant, c'est une équipe de gens. Je vous rappelle que tous les mois, depuis quelques mois, Moto Magazine fait le tour de France des bouclards, des gens qui ont des activités, alors c'est en page 103, des activités évidemment qui ont rapport à la moto. Ici, il s'agit d'Abbé d'Ecométal, et donc qui travaille sur tout ce qui est peinture, alors peinture classique, céramique, peinture céramique, cutting, à base de poudre, chromage, micro-sablage, oubliage, mécanique. Et cette société donc se trouve à Ozoir-la-Ferrière, et elle est vraiment leader, et elle fait des choses exceptionnelles.
Ça va intéresser nos amis de la EBF.
Actuellement. Tout à fait. Tout à fait.
Alors, tu les connais ?
Pas du tout.
Non, mais actuellement, ils doivent avoir les pieds dans l'eau, là. Malheureusement. Alors, pour eux.
Ah oui, effectivement. Ozoir-la-Ferrière. Fait pas bon être à Ozoir-la-Ferrière en ce moment.
Ouais, tout à fait.
Et donc là, une équipe de 8 personnes qui font des... Alors, photos à l'appui, vous découvrirez quand même des superbes réalisations sur des optiques de phare, des bouchons, un bouchon de Harley cuivré du plus bel effet. Et donc, sur commande, vous pouvez relooker complètement la moto. Donc, ça fait partie, je dirais, des portraits d'hommes et d'activités. Donc, modèles en quelque sorte dans leur secteur.
Tué par le gouvernement qui empêche à toute force les modifications de moto.
Oui. On en parlera après avec Daniel, parce que je sens il est chaud bouillant là.
Oui,
il a plein de choses à dire.
Mais c'est de votre faute avec l'histoire de vous voulez nous faire crever, je suis pas d'accord.
J'introduis. Avant d'écouter un petit morceau de musique, j'introduis à partir de ce sujet-là le sujet suivant qu'on va développer, c'est le prix de la main-d'œuvre et justement des professionnels. Parce que là, on voit bien que quand on a une technicité, vraiment une compétence particulière, où que vous vous trouviez, les motards vous trouvent. Et on verra tout à l'heure dans le dossier, des gens qui ont vraiment une compétence, ils peuvent aller au fin fond de la France, ils auront toujours une clientèle, et même à prix, prêt à payer, en payer le prix, parce qu'il y a une compétence. On en parle tout à l'heure.
The heart.
Et voilà, au téléphone, on retrouve Pierre Leclerc qui organise la deuxième édition du Trail Raid Impérial. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour bon. À toute l'équipe de Radio Campus. Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices.
Très bien. Voilà, le Trail Raid, c'est sur deux jours. Ça a commencé hier matin, samedi matin.
Oui, voilà. Ouais, tout à fait. On est hier matin de Grand Place de Lille. Rendez-vous à 7h30 pour le briefing et départ des premiers pilotes à 8h.
Et là, vous êtes en train de vous noyer.
Alors, de nous noyer, je ne sais pas si on peut dire qu'on se noie. Disons qu'on est en train, en tout cas, de prendre un beau bain de boue. Hein. C'est clair que là, on va avoir des pots de bébés après tout ça.
Voilà, c'est très bien. Ah bah ouais, oui, ouais, au moins, ce sera fait, ça. Voilà, et donc, oui, on peut revenir donc sur le parcours et les participants, les machines aussi qui participent à cette deuxième édition du Trail Raid Impérial.
Ouais, sans problème. Bah, le parcours, il est à l'origine tracé par un des trois cofondateurs là, avec mes deux acolytes Luc et Philippe, tracé avec de la carto. Et puis on voulait un itinéraire assez varié, tu sais, pour privilégier à la fois les chemins rapides, les petits sentiers un petit peu plus techniques. Donc on a fait vraiment un tracé le plus varié, le plus large possible, qui puisse satisfaire un maximum de motards. Et bon, on a aussi des débutants, on a des niveaux confirmés, donc il fallait vraiment qu'on puisse satisfaire tout le monde. Et c'est un petit peu le pari et le défi qu'on essaie de relever, c'est de donner du plaisir à tout le monde sur un tracé le plus varié possible.
Très bien, ce raid est réservé exclusivement au Trail GS XTZ Africa Twin DRXT DT, etc. aussi,
oui,
alors, etc.
En fait,
après.
Ouais, voilà, tous les trails, toutes les machines qui revendiquent l'appellation trail sont les bienvenues. Bon, on évite les machines plus orientées tout terrain parce que on veut rester quand même dans un monde de passionnés trail. On veut garder l'esprit trail, cet esprit d'aventure propre à cette moto. Et donc, on essaye de restreindre aux machines que tu as citées là juste avant. On a de la GS, on a de la Super Ténéré, on a des gros engins, hein, on a des 1200 Super Ténéré, des 1200 GS. Bon, on a des petites cylindrées, on a une 125 DT aussi.
D'accord, oui, bah non, bah,
car,
bah, pas tout.
Hein.
Et puis, alors, moi, ouais, il y a quelque chose qui va plaire à Jean-Yves ici, qui est avec nous dans les studios. Hein. Nous, Jean-Yves, bon, c'est un rouleur. Hein. Il y a des millions et des millions de kilomètres à son actif. Ouais. Lui, il part avec la tente, son duvet, c'est tout. Là, le Trail Raid Impérial, c'est aussi une formule en mode baroud, en autonomie totale. Ouais. C'est-à-dire le slip. Brosse à dents dans les sacoches, ouais. Et c'est tout.
Exactement. Et les outils.
Exactement. Et parce qu'on ne change pas de slip, ça porte bonheur de garder le même.
Ah, ça, je savais pas, ça.
Heureusement. Voilà.
Mais ouais, en fait, il existe déjà des formules. Bon, on n'a rien inventé avec ce genre de formule. Simplement, ce qu'on voulait, nous, c'était faire revenir les motards vers des fondamentaux d'aventure, des fondamentaux de raid avec du baroud. On voulait vraiment une notion de camping aussi, de campement. Donc on a laissé tomber les formules avec hôtel ou chambre d'hôte et on a vraiment voulu que les gens se retrouvent autour d'un campement soir et on a choisi le camping de Pierrefonds pour faire le lieu de rendez-vous. Donc les gens ont leur baluchon sur le porte-bagages et puis c'est l'esprit.
Alors, pas de GPS, pas d'anti-patinage, pas d'ABS, pas rien.
Alors, l'anti-patinage là, je peux te dire qu'il valait mieux le débrancher, mais... GPS, si. Alors par contre, nous, on propose une trace. Alors on n'impose pas, mais on propose une trace GPS. Donc ils ont 320 chaque participant à deux traces pour les deux jours. Et libre à chaque participant de suivre ou non la trace. Si le niveau est un petit peu trop élevé, ils peuvent chinter la trace qu'on propose. Mais quand même, on demande à ce qu'il y ait un GPS pour que l'esprit raid soit aussi conservé. La trace est hyper précise. Luc a fait un très gros boulot de reconnaissance encore cette année. Et donc, ce serait dommage de se priver de cette pointe de modernité.
Ouais, bon, d'accord. Donc, vous avez doublé, hein, 60 participants cette année pour cette deuxième édition.
Ouais, on a doublé. On a été vraiment... Alors déjà, l'année dernière, on ne s'attendait pas à avoir sur une première édition 30 participants comme ça en deux mois de temps. Et cette année, dès le mois de novembre, on était relancé par des participants qui nous demandaient des dossiers d'inscription, qui voulaient savoir comment ça allait se passer cette année. Donc, il y a vraiment un fort engouement là, pour ce genre de raid. Et on est vraiment très fiers là, d'avoir pu rassembler ces 60 motards qui viennent de partout. Hein. On a des gens de Brest, on a des gens de Nancy, oui. On a des Parisiens. Donc, tu vois, vraiment, c'est vraiment très, très ouvert.
En fait, tu dis qu'il ne faut pas aller très loin pour pouvoir en fait, avoir un beau parcours ici dans la région. Hein, finalement, on part de Lille et puis...
Voilà, tu quittes, t'arrives aux quatre cantons et puis tu as des chemins qui partent, des chemins ouverts à la circulation qui partent, qui partent vers l'aventure et c'est ce qui est fabuleux. Quoi.
Bon, très bien. Bon, pour participer à cette deuxième édition, ben, hélas, il est trop tard.
Ah oui, là, il est trop tard. Par contre, ce qui est encore possible...
Mais par contre, l'année prochaine, il y aurait peut-être bien une troisième.
Ah ouais, surtout qu'en plus, on a un partenaire qui est Espace Moto à Valenciennes, qui nous a rejoint, qui nous a supporté cette année, en nous proposant des tonnelles, en nous proposant des badges nominatifs, des autocollants. Donc, Espace Moto a vraiment joué un bon rôle là, pour nous aider. Donc, s'ils sont encore présents l'année prochaine...
Très bien. Ça, on verra. Par contre, tu approuves, enfin, tu me dis, c'est vrai, il y aura une troisième édition hein, pour l'année prochaine.
Bah, je pense, parce que les gens ont adoré l'ambiance, la trace, elle est vraiment bien faite.
On va avoir un an pour en parler. Très bien, est-ce qu'il y a un site internet, on peut aller voir des photos de comment ça se passe, tout ça?
Ouais, il y a une page Facebook, Trail Raid Impérial, il y a une page Facebook avec tout ce qui s'est passé en direct depuis hier matin, le départ. Donc elle est ouverte, il n'y a aucun souci.
Très bien Pierre, on va te laisser reprendre la route parce que je sais que tu t'es arrêté juste pour nous appeler, et rejoindre les participants.
On est à 18h, Grand Place de Lille, donc toute l'équipe de Radio Campus est la bienvenue pour venir boire une bière avec l'équipe.
On va venir tous te voir, s'il y a une bière à boire.
Avec un tuyau d'arrosage.
On va venir te voir. Allez, bonne route et à bientôt.
Merci à votre émission, à bientôt.
Merci.
Taking time.
Voilà, le magazine de la moto, le dimanche de 11h à 12h30. Enquête, ça c'est le Motomag revient sur le prix de la main-d'œuvre.
Voilà, le prix de la main-d'œuvre en atelier. Alors je sais pas si vous êtes concessionnaire, atelier indépendant ou auto-mécanique, je sais pas.
Le meilleur, c'est la mécanique faite par soi-même. Quand on sait comment ça a été fait, on se forme.
Oui, alors.
À partir du moment où la passion est là, c'est pas difficile de se former.
Alors, justement, donc, le dossier, l'enquête plutôt revient sur le coût de la main-d'œuvre. Alors, on annonce des prix, là. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. 21 euros en Espagne. Alors, je pense que c'est des prix hors taxes, parce que sincèrement, je vois pas trop comment on peut tirer bénéfice d'une activité en vendant l'heure de main-d'œuvre à 21 euros. Bon, les prix, quand même, qui sont constatés vont plutôt de 40 à 90 euros. De l'heure. Donc concession, atelier indépendant. Alors on nous explique que justement les concessionnaires, eux, sont tenus à acquérir de la part de leur marque des matériels
d'outillage spécifique,
de devoir se former. Ils ont également des locaux à satisfaire pour les marques, et ça on le voit bien. Ça, j'ai connu Boulinguer à l'époque où je faisais entretenir la moto sur Valenciennes. Boulinguer a claqué la porte de BMW où il s'est fait mettre dehors parce qu'il a refusé de rentrer dans le système de BM automobile qui était effectivement... Donc tous ces services qui sont... services, je ne sais pas si on peut ça parler coûte. De showroom comme d'un service, mais effectivement, ça coûte.
Répercuter ça sur...
Ça coûte. Mm-hmm. On nous dit aussi que la formation des personnels, ils sont pris sur le temps de travail et tout ça, ça se réintègre dans le coût de la main-d'œuvre.
Page 71, il y a un petit camembert là, qui dit que c'est presque la moitié du budget d'un motard.
L'entretien.
Oui, alors ceci dit, Daniel disait tout à l'heure, les motards roulent moins. Donc c'est effectivement aussi les budgets qui sont à la baisse. Hein. On nous dit la dépense annuelle pour les motos qui roulent de moins en moins, pour l'entretien, est passée de 424 euros à 344 de 2008 à 2014.
Par contre, il faut savoir que aussi les espaces entre révisions ont tendance à s'allonger pas mal. Chez Triumph, c'est 16 000 bornes. Ducati, c'est 20 000. C'est vrai qu'en général, un motard moyen, 20 000 bornes, il le fait en 2 ans si c'est un gros rouleur. Donc, il ne passera à la caisse, au tiroir caisse, que tous les 2 ans.
Ouais. Alors, il y a aussi l'électronique. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des motos anciennes, mais c'est vrai que les motos d'avant 2000, les premières BM, bon, aujourd'hui, on peut les faire entretenir sur des ateliers de mécanique indépendante, alors que les BM récentes, je dirais, en dehors de la concession, point de salut, quoi, en quelque sorte. Je sais pas ce que t'en penses, Lamiche, toi qui roules BM. Donc, non. C'est vrai que ces outils d'aide au diagnostic, tous les...
Maintenant, c'est de l'informatique. Moi, j'y connais rien en informatique. Non. Alors, tu veux.
Mais le concessionnaire non plus. Hein.
Oui, c'est ça.
Ah, ça nous rassure.
Non, mais pourquoi c'est important ce que tu dis au niveau de cette espèce d'univers un peu fermé. Je compare ça maintenant les concessionnaires à Apple. C'est-à-dire que si tu as un système complètement propriétaire, plus personne ne peut intervenir. Et c'est d'autant plus gênant que quand tu as un problème particulier, on te dit « Ah, mais l'informatique m'a dit que tout allait ». Toi, t'as beau dire « Non, il y a un problème », on te dit « Non, non, ça va bien ». Et d'ailleurs, je rappelle aussi que les entretiens pour les machines américaines, c'est tous les 8000 km. Enfin, tu me diras, il y a tellement peu qui roulent avec, ça va.
C'est 3 ans.
Voilà, facile.
Non, mais... un fait que je voudrais souligner aussi, en tant que particulier qui entretient lui-même ses bécanes, c'est le prix de l'outillage spécifique. Parce que les fabricants pourraient très bien ne pas pousser à la consommation en fabriquant des appareils spécifiquement pour entretenir les bécanes, des extracteurs d'arbres à cames ou de chaînes de distri ou autre, mais ils le font et ils ont une très grande réticence à le vendre aux particuliers et à des prix astronomiques.
Là on parle de maintenance, hein. Là c'est du démontage, un extracteur d'arbres à cames, qui c'est qui peut faire ça franchement.
À partir du moment où ta chaîne d'arbres à cames est usée, il faut la changer. C'est de la maintenance.
Non mais il faut changer de moto, il faut aider le commerce.
Non mais demande à Christine si elle va changer sa chaîne d'arbres à cames. C'est pas possible. Elle s'est déjà posé que c'est qu'un arbre à cames.
Non. Si, je sais ce que c'est.
Ah, si, tu sais. C'est le cousin d'Edouard.
Exactement. Non, voilà. C'est pas ça ?
Oui.
Ah bon, je croyais.
Non, non, donc c'est vrai que le coût de l'outillage pour un concessionnaire est élevé parce qu'il est obligé par la marque de l'acheter. Mais bon, c'est quand on voit les performances des mécanos qui se... Bah, ils ont un tour, une fraiseuse, ils fabriquent l'outillage, point barre.
Et alors, là, on découvre une statistique quand même qui est impressionnante par rapport à ce que tu disais. 51 des motards entretiennent eux-mêmes leurs machines, notamment grâce à Internet, qui favorise l'achat des pièces et l'obtention de conseils techniques directement. Et 28% le font chez un concessionnaire. Et alors, tout à l'heure, je disais, effectivement, il y a des compétences aujourd'hui qui se trouvent dans des provinces reculées. L'année dernière, on était allé voir Givaro, qui travaille sur les anciennes et donc notamment sur les Triomphes. Et là, donc, l'enquête se termine sur la présentation de Benjamin dit Big Ben, qui s'est retiré. Donc, il a travaillé dans beaucoup de concessions avant de prendre son indépendance. Et donc, aujourd'hui, il vit dans le massif des Bauges. Alors, ça tombe bien, j'étais en vacances. Je savais pas qu'il était là-bas, mais j'étais en vacances dans ce secteur-là. Je peux vous dire que c'est effectivement reculé. Mais les gens viennent et n'hésitent pas à faire la route pour venir chez lui, pour trouver sa compétence avec une main-d'œuvre tarifée à 65 euros. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, on a fini avec ce dossier main-d'œuvre, prix de la main-d'œuvre. Après, on partira en voyage. On va en profiter justement que Daniel aussi il a des choses à dire parce que la FBF organise des grandes fêtes et des grands voyages aussi.
Oui, 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 surtout des grosses, grosses manifestations, tout au moins.
Pour maintenant, pour juin, juillet, août, voilà.
On peut partir en voyage et se faire une manif pendant le voyage.
Et voilà, très bien, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Faut joindre l'utile à l'agréable, hein.
Voilà. Christophe, je te propose de terminer ce sommaire du Motomag de juin avec une balade, une très grande balade, hein, parce que c'est un Paris-Sydney.
Voilà, donc Frédéric et Aldo qui, bon, Une vie de couple remplie de joie et d'épreuves, et ils ont décidé de partir à l'autre bout du monde. Donc ils sont partis de Paris et destination Sydney. Voilà. Et la monture, donc. Alors, d'ailleurs, ça commence comme ça. Frédéric. Madame. Passagère, 30 000 km derrière. Alors, elle a quand même craqué au Népal. Hein. Alors, elle a quand même loué une Bajaj 150 cm3 pour
rouler elle-même. Non. Au début, elle se demandait si. Enfin, ils se demandaient oui, si. Le couple se demandait si madame allait prendre la moto et monsieur la moto. Et apparemment.
Oui, et puis bah, beaucoup de gens lui ont dit mais tu vas pas tenir, tu vas pas y arriver.
Voilà.
Et puis, si. D'ailleurs, c'est elle qui rédige l'article. Très bien, d'ailleurs, sympathique. On la suit dans tout leur parcours. Et donc, elle nous raconte la traversée des pays, le rapport aussi aux femmes et à la religion, à l'islam, qui est totalement différent d'un pays à l'autre. L'Iran, qui a été très attachant dans leur voyage. Et puis aussi la Malaisie. Donc, voilà, 30 000 km, 6 mois de moto. La moto, une vidange et un pneu. Donc, c'est une sacrée pub pour...
et on dira pas la marque.
Non. Je l'ai dit au début. Hein.
Ah oui.
Non, si vous n'avez pas écouté, il faut retourner.
Alors, moi, au début, j'ai lu l'article, hein, mais et en fait, je me dis après, mais c'est quelle moto? Parce qu'on voit que des photos de derrière, il y a une bavaroise, tu sais, une marque. Bah non, c'est pas une marque bavaroise.
Non,
c'est une moto, c'est une marque japonaise. Bref, voilà. Allez.
Voilà. Et puis, donc, puisque c'est bientôt l'été, je le disais tout début d'émission, un cahier central qui a été co-rédigé avec Moto 80, l'équivalent, le pendant de Moto Magazine en Belgique. Et donc, qui vous donne toutes les étapes Motomag, en France. Et c'est une charte qui est signée, qui vous garantit donc un accueil privilégié, le stationnement des motos. On connaît, on a eu l'occasion l'année dernière de passer chez Route 99. Vous savez que vous rencontrerez d'autres motards. Souvent, en l'occurrence là, le camping est réservé aux motards. Et donc, vous avez une multitude d'adresses. Camping, voilà. Chambre d'hôte, hôtellerie, enfin, bon, voilà. De quoi parcourir et préparer votre voyage.
Je veux dire que page 82, il y a quand même une photo qui, par ces temps troublés, au niveau de la météo, nous donne envie d'aller rejoindre l'endroit où c'était.
Parce que là, il y a une grande inondation, là, il y a plein de fêtes.
C'est la mer, j'ai envie de dire, la mer. Il y a comme elle est bleue, il y a du soleil. Regarde, ils disent, voilà, une petite.
Alors, c'est la Thaïlande.
Une maison en bois, c'est la Thaïlande. Hein. Ah. Ça donne envie, vraiment, là.
Non. Surtout quand on a mal au dos.
Vous avez des photos du Kirghizistan, de la Mongolie, du Népal.
Plein de photos sur les récits de Paris-Sydney. Voilà, c'est terminé, Christophe. Parce qu'on peut se mettre Daniel maintenant. Parce qu'il faut laisser un peu de place aussi à notre ami de la EBF.
Oui.
Bon, rebonjour Daniel.
Bonjour à tous.
Donc, alors, toi, tu vas nous parler de la ronde des motards du Pevel.
Tout à fait. Notre ami Guineville, d'ailleurs délégué FBF Nord, organise sa 5e édition de la ronde des motards du Pevel. Je crois qu'il y a pas mal de motos, puisque j'en ai croisé ce matin en rentrant. Ça se passe à Genet, juste en face du lycée agricole de Genet. Donc très très bien organisé, plein d'épreuves, sympa, belle musique, beaux concerts, bonne ambiance. Allez-y, ce sont des gens étonnamment accueillants, sympathiques. Et dans tous les cas, bon accueil réservé à tous les motards.
Très bien, jusque ce soir, 18h
ouais, jusqu'à 17h, je
17h,
pense.
17h, très bien, voilà. On va revenir après l'émission.
Parce qu'arrivé à un certain âge, il faut qu'ils rentrent tôt quand même.
Oui, c'est vous avez vu.
Il y a madame qui attend.
Voilà, tout à fait. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire court parce que les sujets sont multiples et variés. Je voudrais reparler quand même d'un événement que nous avons vécu hier, c'est-à-dire la manif de l'FBF. Alors, il y en a beaucoup, avec nos amis de la FFMC, auxquels on participe, bien sûr, avec Jean-Marc Bellotti sur Paris, pour ne pas le nommer. Et aussi, dans toutes les régions de France, la FBF donc, a décidé de manifester aussi son mécontentement sur des lois dites liberticides, dont on parle, mais de manière récurrente, tout le temps, pratiquement à chaque émission, où la bêtise n'a pas de limite. Et nos législateurs, à mon avis, sont en mode compétition. Je sais bien que c'est bientôt les Jeux Olympiques, mais visiblement dans la connerie, à mon avis, on n'est pas loin de décrocher les médailles d'or. Alors, C'est vrai que le fait d'être maintenant empastillé, et non, quoi qu'empastillé, on a vu ce que ça donnait en 1789, on va être empastillé, ils veulent tous nous faire crever, ça j'avoue que c'était pas mal.
Marc, je mets une parenthèse, oui. Eux aussi ils ont vu ce que ça donnait en 1989.
Ah mais de toute manière, avec autant de conneries, c'est un moment donné, ils vont perdre la tête.
Ah oui, ça c'est...
hein, et comme, si c'était en Espagne, il y aurait plus que la tête, enfin bon. Tout ça pour dire qu'on a donc fait valoir un petit peu notre mécontentement, mais de manière un peu plus... comment dire, plus humoristique, plus rock'n'roll, un petit peu à l'image de la FBF. Et effectivement, on a bloqué le périph, on a fait pas mal de choses, on est allé devant des institutions où les grands de ce monde sont censés se réunir, et on a été quelque part accompagnés par la BMO, etc., qui ont trouvé effectivement le cortège très rock'n'roll, très sympa, bon enfant. C'était une manière aussi de montrer notre mécontentement et sur l'obligation impérieuse d'avoir enfin la possibilité en France, pays des droits de l'homme, d'avoir la liberté de rouler avec une moto qui nous ressemble. Et quelles que soient les marques, bon nous c'est le monde du custom, c'est le monde de la custom culture, c'est rock'n'roll, mais que ce soit nos collègues qui roulent avec des super sports, etc. J'espère qu'un jour, on va comprendre que nous avons des gens d'excellence reconnus sur le marché international et qui n'ont aucune possibilité de vendre en France leur produit de leur travail. C'est ahurissant. Et ça, c'est un peu plus de 60 000 personnes, je le rappelle. Mais visiblement, on a des crânes d'œufs qui sont devenus complètement ahuris. On parlait tout à l'heure d'écologie. Je rappelle quand même ce que j'ai dit le mois dernier. Les 10 premières entreprises de France ont dégagé dans la nature 85 millions de tonnes de CO2. Mais ça, par contre, c'est normal, ça ne pollue pas. C'est quand même curieux, la justesse... la justesse ou l'égalité des membres, selon que tu es riche et célèbre, n'est-ce pas, pour plager un petit peu la phrase, fait que on arrive donc à des choses ahurissantes. Encore une fois, on voit des lois européennes qui tombent sur la gueule des salariés, les mecs n'ont rien demandé. À côté de ça, on voit des gens qui s'enrichissent sur la misère du monde. On s'aperçoit qu'on manifeste pour défendre un mode de vie qui est la custom culture. Comme par hasard, on n'a aucun distributeur. On n'a aucun importateur, c'est quand même... Eux aussi, ils ont un comportement complètement schizophrène, parce que non seulement on est en train de défendre leur gamelle, et eux disent « Allez au charbon, battez-vous pour mes droits ». Donc à un moment donné, on saura aussi s'en rappeler, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure dans l'excellent Motomag de ce mois-ci, sur le coût de main-d'œuvre. On se demande, à 23 euros je crois pour l'Espagne, comment des concessionnaires, avec les frais qu'ils supportent, avec les charges, avec les taxes, avec les obligations de formation, comment ils peuvent s'en sortir? D'un autre côté, quand on voit le budget aussi du motard lambda, il y a quelque chose qui ne va plus. On a des motos qui explosent, on a des lois qui deviennent de plus en plus connes. Quelle est l'utilité, à un moment donné, de rouler en moto?
Est-ce que c'est une spécificité française? Comment ça se passe de l'autre côté des frontières?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'on est contacté par nos collègues et amis espagnols, italiens, anglais, belges, allemands, pour se rapprocher un petit peu de notre mouvement, parce que eux, c'est beaucoup plus, je dirais, libéré comme mode. En Espagne, tu fais ce que tu veux avec ta moto, en Italie aussi. En Allemagne, tu peux mettre n'importe quelle pièce à partir du moment où elle est homologuée TÜV. Il n'y a qu'en France où on est complètement bridé. Pays des libertés et des droits de l'homme, on n'a jamais eu autant de lois liberticides, et ça, quel que soit le niveau.
Il y a encore du boulot.
Très bien.
On va rappeler notre ami Ducato pour aller en Europe.
Oui, en Europe, à Bruxelles, pour nous refaire un petit truc. Là.
Voilà, les amis.
L'émission se termine.
On s'amuse bien.
Voilà, tiens, il y a le festival de Bouchain aussi, le moto de la Bouchain aujourd'hui. Hein, c'est jusque 18h, 19h. Voilà, hein. Oui, Christine, puis, il fallait le dire. Voilà.
Bah, Christine, il faut y aller.
Il y a l'assaut Cœur de Motard qui appelle à une manifestation à Aulnoy-Aymeries pour les jardins de Tiphaine, voilà. Qui est un bébé martyrisé.
Il y a aussi à Berkeley, à Tournai, il y a Hippopotard qui organise aussi un rencontre moto et ancêtre. Il y a plein de trucs aujourd'hui, en fait. C'est sur le calendrier. Voilà, l'émission se termine. Merci. Daniel, on va terminer. Vous savez que c'est la dernière, hein?
Oui.
On va se retrouver.
Ah, c'est déjà fini.
En septembre. Oui,
on va se retrouver on va se retrouver en octobre. Début octobre.
Mais sur RTL.
Ouais, il paye plus.
Sur Canal Plus, parce qu'il cherche du monde.
Il reste 30 secondes, 40 secondes. Au revoir. C'est de bonnes vacances. À toi, oui, vas-y, Christophe.
Merci.
Allez, bye. Christine, bonnes vacances à tout le monde. Jean-Yves,
oui,
bonnes vacances.
Heureux et nombreux kilomètres à tous les motards qui nous écoutent. Et, voilà, et motardes surtout.
Et Daniel aussi, bonnes vacances à l'EBF.
Merci
à tous les membres.
Merci à vous tous, parce qu'il y a une équipe formidable. On est encore ici dans un univers de liberté et on fera tout pour le garder.
Ouais, roulez. découvert.
Voilà, donc voilà. Bah, toujours nous, on se retrouve toujours dimanche prochain. Hein. L'émission aura lieu jusqu'au fin juin, naturellement. Mais voilà. Bon, bah, passez un beau dimanche. Regardez le calendrier. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Au revoir à tous.
Au revoir, l'ami.